Volume présente Fille de rouille de Gwendoline Keist, lu par Hélène Poussin. Pour Bill, qui m'a inspiré ces mots, et pour Jess, qui les a polis. Chapitre 1. Prier pour les filles de rouille. Même après toutes ces années, ces mots me coupent le souffle. Je frissonne dans la rue, près de l'ancienne aciérie, lisant et relisant les graffitis sur l'asphalte en train de s'effriter. La peinture rouge s'est maintenant ternie, mais le temps ne l'a pas effacée comme il l'aurait dû. À la place, mes souvenirs attendent de m'accueillir. Il y a un grillage érodé en face de moi, et plus loin, des cheminées industrielles qui égratignent le ciel. Mais je ne regarde pas par là. Mes yeux ne quittent pas ces mots. Priez pour les filles de rouille. Comme si toutes les bénédictions du monde avaient pu faire le moindre bien à ces filles. Ma respiration se transforme en brume, tandis que le froid de décembre s'installe au fond de mes os. Cleveland. La ville est telle que je l'ai connue. Froide comme une promesse brisée, et tout aussi cruelle. Elle se souvient de tout, même de ce qu'il vaut mieux oublier. Je frémis dans la nuit, m'agrippant à ma vie tout entière, dorénavant rangée dans un sac de sport. J'aurais dû téléphoner à ma mère il y a 1h30, depuis la station Greyhound. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais d'abord venir ici, et je voulais venir seule. Je pensais que d'une manière ou d'une autre, voir ce lieu après ces nombreuses années changerait quelque chose. Toutefois, maintenant que je suis là, je me sens encore plus mal. Je me détourne du graffiti et j'observe ce qu'il demeure de l'horizon. L'usine est à plus d'un kilomètre de la maison de mes parents. C'est une longue distance, surtout avec le vent qui murmure ses sombres mensonges au-dessus du lac. Je remonte le col de ma veste. Si je reste plus longtemps dans ce froid, je risque une pneumonie, ce qui est inconcevable. Cleveland n'a pas réussi à me tuer à l'époque. Il est hors de question qu'il m'assassine le premier soir de mon retour. Il n'est pas encore minuit, et ma mère viendrait me chercher si je l'appelais. Je grimace à cette idée. Me voilà, 46 ans, et ayant encore besoin d'un chauffeur. Rien ne s'est amélioré depuis que je suis partie. J'ai grandi, mais je ne suis pas devenue plus sage. Je commence donc à marcher seule, passant devant tous les lieux que j'ai connus un jour. L'église presbytérienne, avec ses murs grêlés, ses bardeaux manquants et son vitrail fêlé au milieu. Je ne peux m'empêcher de sourire. Après ce que la congrégation nous a fait, cette déchéance est tout ce qu'elle mérite. L'épicerie du coin, à l'époque ouverte 24 heures sur 24, avec du café toujours chaud et une petite clochette dorée au-dessus de la porte, annonçant les départs et les arrivées. Le bâtiment est maintenant condamné, bien qu'on voit encore de la publicité à travers ses fenêtres brisées. Les prix sont faux. Nous sommes en 2018, et le tabac coûte au moins $1 de plus que ce qui est annoncé. Le lieu a dû fermer il y a 10 ans, mais les prix affichés restent les mêmes. Ils sont prisonniers d'un entre-deux. Prisonniers, comme moi. Je croise la carcasse d'une cabine téléphonique. Le combiné a disparu depuis longtemps, mais je suis presque sûre d'avoir entendu un ricanement chevrotant au bout du cordon coupé. Je secoue la tête et me dis que c'est le vent. Je suis dans le dernier pâté de maison maintenant, ce qui signifie que je ne peux plus l'éviter. Denton Street se termine en cul-de-sac, donc l'unique chemin menant chez mes parents me fait passer devant le seul lieu que je ne veux pas voir. La demeure où ma cousine Jacqueline a grandi. Je baisse la tête vers le trottoir, mes bottes slalomant entre les lézardes pointues du ciment. Tandis que je me rapproche, je me rappelle les choses que je me suis promises. Je ne regarderai pas vers son étage.